Vraiville PM. Faut que je te raconte.
Puis j'en ai besoin. Arrêtez pas de me parler. Moi, mon petit est tellement de tout petit. Là. Bon, j'aime ça. Marco Sandachol, vous en parlerez à mon fils, il n'en peut plus. Moi, là, j'arrête la monde à Sandachol lui conter des histoires.
Voici Michel Barrette.
Alors, c'est Michel Barrette que vous entendiez dans une émission précédente.
Oui.
Où tu nous disais que tu aimais ça aller au-devant des gens.
Oui, parce que je comprenais pas. Parce que suite à un article où on se pose la question à savoir, est-ce que les... Puis quand on était jeunes, nos parents nous apprenaient à ne pas parler aux étrangers.
Oui.
Parle pas aux étrangers. Si tu connais pas, parle-y pas, c'est dangereux, je sais pas quoi. Puis moi, j'avais de la misère. Ben, quoi que non. Jeune, non, parce que j'étais plutôt introverti, tu vas croire, mais j'étais vraiment seul dans ma bulle. Mais quand je passais de seul dans ma bulle à ouvert sur le monde, mais peut-être un peu trop.
Là, tu étais très, très ouvert sur le monde.
Ah, ça n'a pas de bon sens. Mais écoute, je suis fatiguant, là. Je veux dire, moi, si je marche en centre d'achat, je le répète, et que je vois quelqu'un qui me regarde, des fois, les gens, ils se demandent s'ils peuvent venir nous parler parce qu'ils nous ont joué à la TV ou je sais pas quoi. Mm. Moi, c'est le contraire. Ou ceux qui me regardent, je vais vers eux. Hey, madame, faut que je compte dans l'affaire. Puis là, ils font comme, qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut me compter d'affaires.
Puis, mais là, ces gens-là, s'ils te regardent, tu penses qu'ils t'ont reconnu dans la majorité
ben,
des cas.
Souvent, ça paraît dans le regard, dans oui. Le sourire qu'ils m'ont reconnu. Puis mais... au lieu de fuir ou juste de saluer, oui. Souvent, je vais aller au-devant des gens. T'sais. Et mais moi, c'est un défaut parce que je ne suis pas capable de m'empêcher de raconter. J'ai besoin de raconter, donc je me cherche toujours un public. Mais en même temps, je t'ai déjà raconté aussi que pendant des années où j'entrais tous les jours à Radio-Canada, j'en pouvais plus de me faire, de voir des gens qui me croisaient, qui regardaient le mur plutôt que de me regarder, qui ne m'adressaient pas la parole.
Et pourquoi ils ne t'adressaient pas la parole?
Je n'ai jamais compris.
C'est-tu parce qu'ils ne voulaient pas te déranger, peut-être?
Non, parce qu'ils étaient dans leur bulle et il y avait... Bon, ça va plus loin que ça. J'avais l'impression que je ne faisais pas partie, mais c'est un peu comme si j'étais...
Il te snobait.
Oui, il me snobait.
Hein, il y avait un petit snobisme. Je vais dire, un petit peu de snobisme là-dedans.
Merci de le dire.
C'est un petit peu ça.
Ça me permet de le dire. J'avais l'impression que je n'avais pas d'affaires dans cette maison-là. Et ça m'agaçait, un, pour ça. Puis deux aussi, ne serait-ce que le moi, je dis bonjour aux gens. Je marche dans le corridor. Quand j'entre ici, là, il y a plein de différentes stations dans le beau building. Je croise quelqu'un, même si je ne le connais pas, bonjour. Les gens me répondent, bonjour.
Tu le fais systématiquement?
Systématiquement. Ou juste un regard.
Je devrais m'inspirer de toi un petit peu plus.
Ah oui?
Parce que, oui. Parce
ça
que
fait la journée.
Je ne sais pas quoi faire des fois, moi.
Non, un sourire. Même si tu ne dis pas rien.
Je suis comme, tu sais, la personne, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Bon,
raison de plus.
Bon. Puis là, je ne sais pas. Tu sais, parce que je ne veux pas non plus. Tu ne veux pas avoir l'air de celui qui cherche l'attention tout le temps, tu sais.
Oui, mais je crois qu'il y a. Il y a une bonne balance à faire là-dedans. Si tu marches. Moi, je suis un extrême, mais bon. Si tu marches dans le corridor, tu croises quelqu'un. Il y a deux êtres humains qui se rencontrent. Juste un sourire, un bonjour.
Mais systématiquement, donc, mettons, parce que la raison pour laquelle on vous parle de ça, là.
Quand tu passes à la réception, tu salues les deux jeunes filles.
Oui, mais je les connais. Okay. Tu vois, je les connais, c'est mes collègues de travail.
Si tu croises quelqu'un dans le corridor qui est invité sur un autre show, est-ce que tu vas le regarder?
Dans le corridor, ici, dans l'édifice, oui. C'est-à-dire dans les bureaux, dans les studios, dans les couloirs autour des studios, oui, je vais. Oui, mais après. Quand je sors des studios de Cogeco, de l'espace Cogeco, là, c'est pas que je suis bête, quoique des fois, je pense que le monde, il pense que je le suis, mais c'est juste que je veux pas, tu sais, avoir l'air de celui ou de celle qui se promène pour dire « Hey, bonjour, regardez-moi. » C'est pas ça. Je veux pas ça, moi.
On est près du métro aussi. Donc, dans le grand corridor, s'il y a 50 personnes qui s'emmènent, tu peux pas saluer tout le monde. Ça, c'est différent. Tu marches. Et si quelqu'un par contre, moi, si je marche dans une foule, et je vais pas m'adresser à tout le monde, mais si quelqu'un me regarde...
Si quelqu'un croise ton regard...
Je vais lui faire un sourire.
Bon, alors, la raison pour laquelle on vous parle de ça, là, c'est parce que là, il y a un article ce matin qui a attiré notre attention dans Slate. Et dans le fond, la question, c'est est-ce que vous, quand vous croisez un inconnu, est-ce que vous avez tendance, justement, est-ce que vous avez le réflexe de le regarder, de la regarder, de la saluer, de discuter même avec? Mettons, tu es dans le métro. Regarde bien. Là, moi, je vais prendre l'autobus à la fin de la journée. OK? Bon. Il va y avoir quelqu'un d'assis à côté de moi. Bon, de plus en plus souvent, on a chacun nos écouteurs, puis on se parle plus. On parle plus. Non, mais des fois, tu as le goût de parler. Des fois, tu n'as pas le goût de parler. T'sais, des fois, tu as le goût d'être dans ta bulle.
Oui.
Mais dans les faits, Michel, dans les faits, moi, je pense que de plus en plus souvent, on a tendance à ignorer le voisin. Que ce soit le voisin du siège d'à côté, que ce soit le voisin qu'on croise dans un corridor, l'inconnu nous est de plus en plus inconnu et on fait de moins en moins d'efforts pour entrer en interaction, que ce soit par un regard, un sourire, une discussion, une poignée de main.
Et c'est ce qui est drôle?
C'est quoi?
Et contradictoire. Souvent, je le remarque chez des Québécois, les gens, c'est que quand ils se rencontrent à l'étranger, ils entendent parler un autre Québécois, ils vont vers...
Mais c'est sûr! Mais là, Michel, quand j'entends quelqu'un, on est en voyage, là. Mon fils qui est en Espagne, il me l'a conté récemment, là, tu sais. Il étudie, là, tu sais, bon. Il a entendu un Québec. Écoute, il s'est garoché dessus.
Pourquoi?
Parce
que... Moi, c'est le contraire.
Parce que c'est comme la famille. Quelqu'un de la famille!
Mais pourquoi on ne le fait pas dans la rue ici?
Ben, je le sais. Je sais que c'est absurde.
Les gens ne parlent pas à leurs voisins, mais ils sont en Espagne, ils croisent un Québécois. C'est comme si... Écoute, Old Orchard, y a-t-il une place qui a plus de Québécois que d'Américains? C'est bien Old Orchard. Tout le monde parle français. Mais j'entends des Québécois qui débarquent, là, ça fait une heure qu'ils sont débarqués à Old Orchard, ils entendent parler français, ils font « Hey! » Hey, ça fait drôle d'entendre parler français. Comment? Il y a tout le monde parle en français. Autant au Larcher, c'est comme une extension de Longueuil. Tu sais. Alors, pourquoi on fait ça à l'étranger, qu'on se sent obligé de se rassembler? Là? Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de... C'est un autre sujet, mais tantôt, tu parlais de notre fierté d'être Québécois.
Oui.
Je pense qu'on est plus fiers d'être Québécois quand on est en dehors du Québec que quand on est à l'intérieur du Québec. Parce que quand on est ailleurs, je répète, on se garoche sur l'autre. Ton fils qui le fait... Hey, un Québécois, faut que je... Tu viens d'où, toi? Trois-Rivières, ouais, puis ça a l'air qu'il fait pas beau au Québec. C'est la deuxième phrase.
C'est systématique. Vous venez d'où, vous? Alors, hey, salut! Hey, moi, je viens de...
Elle va en vacances dans le bout.
Ben oui! Vous êtes arrivé ce qu'elle vole.
Ou ce qui me fait rire, c'est les gens qui me rencontrent et qui font... Vous êtes aux États? Ben oui, monsieur, au hôtel de Saint-Red. Pas mal aux États, là.
Mais on veut juste. C'est malhabile. Mais tu veux juste entrer en relation.
Mais on ne veut pas le faire au Québec.
Non, c'est vrai. On le fait. Alors, regardez bien. On va vous le demander, là.
Ouais.
Le faites-vous. Tu sais, mettons, là, cherchez-vous à interagir, là.
Ne serait-ce que par un sourire.
Oui, oui. Avec les gens que vous ne connaissez pas, dans la rue ou ailleurs, les étrangers, les inconnus, appelez ça comme vous voudrez. Où est-ce que vous avez l'impression qu'on va de plus en plus dans l'autre direction? Peut-être que vous le faisiez avant, vous le faites plus maintenant. C'est quoi?
Et pourquoi?
Pourquoi?
Le week-end passé, j'étais à Burlington avec ma femme. On était sur un terrain de camping. Mm-hmm. Et j'avais remarqué qu'il y avait un motorisé un peu plus loin, que c'était des Québécois. Mais parce qu'ils étaient en vacances, je suis pas allé. J'ai fait exprès de pas passer devant eux autres. Parce que je me suis dit, si je passe devant eux autres, mais c'est même pas par snobiste, c'est même pas parce que je voulais... C'est le contraire de ce que je suis d'habitude. Mm-hmm. Normalement, j'aurais passé, ils m'auraient dit, bien, bon, arrête, il peut faire une affaire. Non. Je me suis dit, ils sont en vacances, ils veulent peut-être avoir la pêche justement de leurs voisins puis du Québec. On va les laisser vivre le Burlington, on va les laisser vivre le voyage. J'ai contourné, j'ai changé de rue.
T'as changé de rue?
Oui. Oui, tu me regardes, ben ça ne me ressemble pas.
Non, c'est
mais
ça.
Mais c'est parce que si je l'avais fait, je ne serais pas revenu à mon motorisé à moi.
Je sais.
Bon, hey, vous condamnez à faire.
Alors, Lise qui nous appelle. Oui. Bonjour, Lise.
Bonjour. Moi, vous savez, ça a commencé il y a beaucoup d'années en Floride. Les gens disaient bonjour, l'Anton Noël, Merry Christmas. J'ai commencé ça. Ça fait très longtemps, jamais que je me promène sur la rue. Puis Dieu sait que je vais marcher souvent, que je ne salue pas les gens. C'est sûr que des fois, on ne me répond pas. Mais souvent, je me rends compte, surtout les personnes âgées, des fois même, j'arrête pour leur parler. C'est tout le temps, partout où je vais, moi, je salue. Je dis bonjour, bonjour quand je rencontre, tout le temps.
Est-ce qui me surprend?
Je pense que c'est bon.
Ce que je viens d'entendre, là, vous dites parfois, ils ne me répondent pas. Moi, ça, je ne comprends pas. Je veux dire que quelqu'un ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre, c'est déjà une chose, mais que quelqu'un ne réponde pas à la salutation de l'autre, ça, c'est une fermeture complète.
Des fois, je pense qu'ils sont surpris aussi, parce qu'ils ne sont pas habitués. Encore aujourd'hui, moi, je demeure dans Hochelaga-Maisonneuve. Mm-hmm. Et Dieu sait que je marche beaucoup, je ne prends jamais ma voiture. Comme je vous dis, à tous les jours. Puis des fois, je me rends compte des personnes âgées qui sont contentes. Des fois, j'arrête, puis je n'ai pas parlé cinq minutes avec la dame. Puis je sais, parce que moi, je fais du bénévolat pour des personnes âgées, puis je sais qu'ils sont seuls souvent. Oui. Et j'aime ça faire ça. Moi, partout, je vais, je rencontre, puis je parle.
Merci, madame.
Merci, Lise. Écoute bien ce que Monique nous écrit. Elle dit « Je suis à l'île des Sœurs. Quand je marche avec mon chien, tout le monde me salue. Quand je marche seule, il y a des gens qui se demandent si je ne suis pas un peu malade de les saluer.
Hein? »
Ah, je la comprends. Je comprends ce qu'elle veut dire.
Explique-moi.
Ben, c'est parce que...
Tu marches avec ton chien, les gens te saluent.
Oui, parce que je suis pas capable de te le mettre en mots, mais je comprends. C'est comme si tu étais plus normal quand tu es accompagné d'un animal.
Ou tu étais plus ouvert à l'autre parce que tu
as... Mais tu as une relation, tu as un animal, donc tu n'es pas toute seule. Tu es avec quelqu'un qui n'est pas une personne humaine, on s'entend, mais c'est comme tu es déjà en relation avec quelqu'un, fait que mettons que tu es moins bizarre peut-être.
Ou peut-être que ça donne une raison de parler à l'autre parce qu'il est beau votre chien. Oh, beau chien! Il est comme une porte ouverte parce que le chien
devient comme la porte d'entrée pour la conversation ou l'interaction.
Peut-être.
Mais en tout cas, je vais dire, la majorité des gens qui me textent là, pour me dire, ils font des sourires, Je parle avec le monde, je souris, je les salue. Parfois, les gens me disent, souvent, les gens sont surpris. Ils sont surpris, ils sont mal à l'aise, ils savent pas trop comment réagir. Et tu vois, Louis, il dit, moi, j'adore mettre mal à l'aise les gens en leur faisant un sourire ou en leur disant bonjour. Pourquoi on est mal à l'aise quand on se fait regarder avec un sourire? Ou quand on se fait dire bonjour.
Qu'est-ce qu'on a à se reprocher?
Mais non, au contraire. Mais c'est ça, c'est comme si les règles sociales sont en train de changer un petit peu. On a Mélissa, bonjour. Mélissa.
Bonjour.
Allô.
Bonjour. Ben, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on fait un sourire à quelqu'un, la personne va nous rendre le sourire. Si on se remet de la claire-tête, c'est certain que les gens, ils nous regarderont pas puis ils souriront pas d'emblée. Mais si on a un sourire, les yeux rayonnants ou on salue de la tête, ben les gens ils vont répondre à notre sourire en général.
Mais Mélissa,
oui.
Est-ce que vous mettons vous marchez là, est-ce que vous cherchez le regard de la personne là, tu sais qui s'en vient, elle marche vers vous. Est-ce que vous la regardez pour voir si elle va vous voir, puis si elle vous voit, vous allez lui faire un sourire?
Exactement. Oui, moi je marche la tête haute puis je regarde les gens quand je marche.
Merci, j'aime ça.
C'est ça qu'il faut faire, je pense.
Et en plus, il y a un autre élément, de plus en plus, des gens qui marchent avec leur cellulaire en main et qui textent ou qui lisent quelque chose.
Mais
ils se ferment au reste du monde. Ou comme les gens qui ont des écouteurs sur la tête.
Ben oui, mais c'est sûr. Écoute, s'il y en a un qui... Moi, je suis très texto.
Et?
Je suis très texto.
Mais en marchant?
Des fois, oui. Ben oui, mais je sors des ondes à 15h, mettons, j'ai reçu plein de textos, oui. Je vais répondre, tu sais, parce que j'ai pas répondu pendant que j'étais dans l'émission, tu comprends? Fait que ça va m'arriver de marcher, puis j'ai ma face dans mon téléphone,
mais ça serait un autre sujet, parce que tu sens l'urgence de répondre. Est-ce qu'il y a vraiment une urgence?
Je pense que je suis un peu mal fait. Okay. Honnêtement, là, il faut que je travaille là-dessus. Steve, bonjour Steve. Ah non, c'est un fait. Bonjour
oui,
Steve,
bonjour.
On vous écoute là.
Oui, bonjour, vous m'entendez?
Ah oui, bien. Vous entend très bien.
OK, ben moi, en fait, j'ai commencé à saluer les gens, mais ne serait-ce même juste un regard, un signe de tête. J'ai tellement remarqué dans tout plein de situations, que ce soit en vacances, au travail, un peu dans n'importe quel domaine, comment ça facilite les échanges, même à la limite même des passes droits que d'autres n'ont pas eu, qui étaient juste devant toi, parce que tu as pris le temps de saluer ou de dire bonjour. Ouais. Tu sais, je vous donne comme exemple, la semaine passée, sans pur hasard, j'ai croisé Michel dans une pizzeria, j'étais assis à ma place tranquille à manger ma pizza. J'ai juste fait un signe de tête, Michel m'a mis la main sur l'épaule, m'a dit « Hey, es-tu bonne, cette pizza-là? » Mais tu sais, rarement les gens vont prendre le temps de se parler quand ils ne se connaissent pas, évidemment. Mais juste un petit signe, même avec les yeux parlent beaucoup.
Oui, puis vous dites que vous avez commencé ça à un moment donné. Qu'est-ce qui vous a fait comme changer de comportement? Y a-t-il arrivé quelque chose? Vous avez dit « Garde-là, moi, changer mes façons de faire?
Ouais, » en fait, Bernard, moi, je suis natif de la région de Louisville, en fait, puis je suis né de la campagne. Tu sais, les fermiers, on salue, tout le monde jasait. Moi, je n'étais pas fermier nécessairement, mais il y en avait plein autour de moi. Mm-hmm. Et à un moment donné, par affaire, je me suis retrouvé à Paris. Puis je me suis aperçu que beaucoup les Français, quand tu croises dans les halls d'entrée et tout ça, j'ai habité là-bas 2 ans. Et les gens qui ne te connaissent pas te saluent de toute façon. Fait que je me suis aperçu que c'était déjà une bonne approche. Et à partir du moment où tu as déjà acquiescé que tu as vu quelqu'un, ben déjà, l'échange est possible. Si tu n'as rien fait de ça, l'échange n'est pas possible. Donc, je me suis aperçu que ça m'aidait beaucoup parce que je me suis retrouvé là-bas tout seul en France à essayer de travailler. J'étais là-bas pour deux années de travail, mais je connaissais personne à part les gens avec qui je travaillais.
Fait que vous avez appris à faire les premiers pas. C'est ça, c'était les premiers pas dans le sens le premier regard, la première salutation, le premier bonjour, le premier sourire.
Exactement, Bernard. Puis en fait, ça, c'est très facile. À partir du moment où tu l'as fait, souvent, il y a une réaction de surprise de l'autre côté, mais en même temps, souriante. Les gens sont contents que tu aies une attention envers eux. Même, tu sais, c'est pas une question d'en mettre plus que le client demande. C'est une question d'être poli.
Poli et gentil.
De montrer que t'as...
Ouais, ouais, bravo.
D'être entier.
Merci, merci Steve de Louisville.
Un autre exemple.
Oui.
Sur la route entre chez moi et l'autoroute 20, OK, il y a, mettons, 7 kilomètres.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui vit sur le bord de la rivière, qui fait beaucoup de vélo, de marche et du canot. C'est un homme, là.
Mm-hmm.
Et pendant des années, à chaque fois que je passais, je le voyais à vélo, je lui envoyais la main. Je le connaissais pas, là. Je lui envoyais la main.
Il te répondait-tu?
Il me répondait. Je le voyais marcher, je le voyais la main. Il était en canot le matin sur le Richelieu, je passais, je klaxonnais un petit coup de klaxon, il levait la main. Pendant des années, là.
Puis tu t'es jamais arrêté
non,
pour jaser avec?
Non, je passais, ben, il est sur son canot sur la rivière
ouais,
où
non,
il
ouais,
marchait,
tu sais.
Et un jour, je suis à Québec dans le Vieux, et j'entends « Michel! » Et il a traversé la rue, il est venu me jaser, comme si on se connaissait depuis des années.
Mais vous vous connaissiez?
Mais on s'était jamais
mais
parlé.
Mais tu l'as-tu replacé de suite?
Tout de suite, parce que je le vois presque tous les jours. Mais à tous les jours, quand je roule, là, je suis même...
C'est drôle, hein? Fait que t'avais créé un lien, dans le fond.
Un lien sans même parler. Des années à s'envoyer la main.
Je trouve ça intéressant.
Puis là, maintenant, là, écoute, je le verrais, je te dirais, hey, c'est mon ami. Pourtant, je le connais pas.
Je me sens mal. Je me sens... Je pense que je suis pas correct. Il va falloir que je travaille là-dessus. Non, regarde, comme un moment donné, il faut identifier nos... On a des affaires à améliorer.
Tu as vécu à l'étranger?
Ben oui.
Tu as vécu au Mexique?
Ben oui.
Comment étaient les gens?
À Mexique, à Londres, à Toronto, à Windsor. Ouais.
Ah, mais est-ce qu'il y avait une différence de comportement, mettons, à Londres ou au Mexique?
Steve a raison de dire que les Français... Il a raison de noter que les Français l'ont plus. Parce qu'il y en a beaucoup de Français à Montréal maintenant. Hein? Mm-hmm. Puis assez souvent, je vais croiser quelqu'un, puis tu l'entends dans l'accent. Oui. Puis, c'est vrai, je pense que les Français, c'est davantage dans leur culture de saluer un inconnu ou une inconnue. Ouais. Fait que, je vais penser à ça. Je vais réfléchir à ça pendant la pause.
Parce qu'on parle d'inclusion.
Oui, oui. Ben oui.
Ça aide à l'inclusion.
Mais ça arrête. Puis, on parle de civisme.
Oui.
Mais ça aussi, ça n'est. Ah. Tu sais, hein? Bon. OK. Après la pause, c'est un peu connexe comme sujet. Les grandes maisons. Les maisons sont de plus en plus grandes.
Mais en même temps, il y a une mode, parce qu'il y a plein d'émissions de TV là-dessus, sur les tiny houses, les mini-maisons.
Oui.
Il y a une tendance vers le mini, puis il y a une tendance vers l'autre extrême, le 10-30.
Oui, cool.
Le quartier en face du...
Oui, ça, c'est grand, par exemple. C'est maudit. C'est gros. C'est mauditement anonyme. Mais les maisons sont de plus en plus comme des 10-30. Est-ce que... Chacun dans son coin.
De plus en plus gros château.
Puis pas nécessairement plus heureux après la pause.
Drainville PM. Faut que je te raconte. Voici Michel Barrette.
Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains?
Regarde. Gros gars.
Ils l'ont-tu l'affaire, les Américains?
Un garage, un gros garage.
Elvis.
On aime-tu ce personnage?
Elvis Graton. Un classique, n'est-ce pas?
Un grand classique.
Alors là, il y a un papier. Écoutez bien ça. Dans The Atlantic, c'est quand même un magazine très réputé, qui dit que en 73, la maison médiane, là, mettons moyenne là, okay? Bon, c'était 1500 pieds carrés aux États-Unis. En 2015, c'était rendu 2500 pieds carrés. Puis c'est pas parce qu'il y a plus de monde qui vivent dedans, il y a moins de monde qui vivent dedans parce que les familles, bon, tu sais c'est quoi. Fait que dans le fond, tu as plus d'espace par personne dans la maison. Et par ailleurs, ce que le papier dit, c'est que c'est pas parce que tu as une plus grosse maison que tu es nécessairement plus heureux. En fait, ce qu'ils disent, avant, les gens étaient plus tassés, mais ils considéraient ça normal. Aujourd'hui, ils veulent plus d'espace. Mais ils sont pas plus heureux, Michel.
Pas plus heureux. Ce que tu viens de dire est important. Dans mon émission où je promène les gens en voiture, là, qui s'appelle Viens de faire un tour, on dirait que je fais une plug.
Oui.
Il y a souvent des. Oui. Il y a souvent des moments où, avec un invité, j'entre dans leur maison d'enfance et qui rentre dans leur chambre, exemple, qui me dit Michel, on était quatre dans cette chambre-là.
Ben oui.
Mais il me dit jamais ça comme un malheur, là. Oui, il y avait les deux lits superposés, mon frère, mon homme et ma soeur.
Moi, j'ai été élevé, là. Mon frère, on avait moi, j'étais en haut, lui, il était en bas.
Dans la cuisine,
puis
là.
Puis à un moment donné, si on était dans le même lit.
Ben oui.
Et mes soeurs, pareil.
Ben oui.
Tu sais, ben, c'était de même, là. On était une famille de six, puis bon.
Ben nous, chez nous, on vivait dans. Ma mère venait d'une famille de 10.
Ouais, il était habitué.
Il était habitué de vivre dans les maisons.
Il y a eu des familles où ils couchaient sur le travers du lit.
Oui, parce qu'ils ne pouvaient pas coucher sur le dos, parce qu'il n'y avait pas de place.
Ils couchaient à trois. De travers.
De travers.
Pas sur le long.
Non, sur le côté.
De travers.
Ouais.
C'est à largeur.
Mais, alors, est-ce que le bonheur se trouve dans les grosses ou les petites maisons?
Voilà. C'est ça la question.
Parce que.
Êtes-vous plus grosse ou petite maison?
Tu sais, la maison, je t'ai parlé cette semaine, là, que j'avais acheté, qui avait un suicide dedans.
Oui.
Je l'avais acheté parce qu'elle était pas chère. Comparé à la dimension.
Bien, c'est sûr.
C'était immense. Mais tu sais que dans cette maison-là, qui était bien trop grande, il y a des pièces où je suis jamais allé. Mettons que j'ai vécu là pendant 10 ans, là, peut-être un peu moins. Je suis allé une fois ou deux, mais qui ne servaient à rien. Je veux dire, mettons que
avec le recul, c'était trop grand pour tes moyens. C'était trop grand pour tes moyens. Pas pour tes moyens, mais pour tes besoins.
Pour mes besoins. Bon. C'est pas ça qui est important. Alors qu'un petit chalet au nord des Mont-Valin fait passer des mois là, avec une cuisine, une chambre en haut ouverte. Une salle de bain.
Garde bien là. On a un auditeur. Bonjour Bernard. Depuis l'an dernier, je vis dans une petite maison dans les Laurentides, 24 par 24.
La même dimension que la maison de mon grand-père.
Pas grand, avec ma copine dans le bois, on est bien en maudit. J'étais sur la rive sud, avant, dans une grande maison de 200 ans. Maintenant, c'est beaucoup moins cher de dépenses. Quand il y a des frictions avec madame, je vais prendre une petite marche dans le bois, me dit Mario. Non, non, mais ça, c'est sûr.
C'est cute.
Ça, t'as pas le choix. Non. Mais c'est ça l'affaire.
Oui.
Quand t'es dans un petit espace.
Proximité.
Oh là là.
T'as d'affaires à t'entendre.
Oui, parce que quand tu t'entends pas, mettons que la température monte plus rapidement.
T'as beau baisser le chauffage, elle va monter pareil, la température.
C'est clair, parce que oui, si tu t'en vas, tu peux pas aller nulle part. Il y a une chambre de bain, une cuisine, un salon, puis une chambre à coucher, mettons.
On va prendre une marche.
Oui, on va prendre une marche dans le bois.
Mais, bon. Alors? On a tous eu des petits logements, des petites maisons quand on a commencé notre vie. Là. J'ai pas de souvenir malheureux d'avoir une petite maison. Puis, au contraire, à chaque fois que je parle de ces maisons-là, là, j'ai le sourire d'en face. Je me dis, il me semble qu'on était collés.
T'as plus de beaux souvenirs. Alors, 790-9850.
Plus de beaux souvenirs.
Mettons vos souvenirs de petites ou de grandes maisons, lesquelles vous avez préférées, mais surtout la raison. Tu sais, parce que toi, tu me dis, dans le fond, là, les plus beaux souvenirs que j'ai de mes maisons, c'est plus les petites que les grandes.
La maison de
mon
grand-père.
T'as plus de souvenirs heureux dans une petite que dans une grande.
Maison de mon grand-père que j'avais racheté, qui mesurait exactement ça, 24 par 24.
Ouais.
Je passais vraiment. Et c'est pas de dire, oui, mais tu allais une fois de temps en temps, non, je fais passer des mois à cette maison-là. Et je me disais, pourquoi j'ai plus gros, moi, dans
la
vie?
Mais on retournerait pas dans. Tu sais, moi aussi, j'habitais à un moment donné dans une petite maison, là, tout retapé, puis tout. Mais aujourd'hui.
Tu retournerais pas là?
Aujourd'hui, bien.
Pourquoi?
Ma fille est dans sa chambre, elle a sa TV. Mon gars est dans sa chambre, il a son ordi. Puis l'autre, il était là. Tu sais, on a comme...
T'as commode pour les enfants, mais si le jour, ils vont partir
de
la maison.
Je suis content, franchement, qu'à un moment donné, je m'encabane dans ma chambre. Puis, tu sais, je vais... Mettons, là, j'ai le goût, à un moment donné, d'être tranquille. Je ferme la porte, t'écoutes ton film, t'écoutes, je sais pas, moi, Game of Thrones. Le goût d'être tranquille.
T'es en train de me dire que tu compartimentes tout le monde dans la maison.
Ben,
parce que mon fils...
Je pense que je suis normal.
Mais je pense que oui, parce que le gars qui te parle actuellement...
Le fait aussi, non?
Le fait aussi. Quand on a construit le condo, on trouvait ça important que Jonathan ait sa section à lui, sa salle de bain, sa chambre, parce que là, il va...
Qu'on est nostalgique du petit, mais dans le fond, on est de plus en plus à la recherche d'un espace à nous.
Le 10-30, le quartier en face, là.
Oui, oui.
Les immenses maisons qu'il y a là. Est-ce qu'on est plus heureux de vivre là-dedans ou dans un petit chalet dans le bois?
Ah, qu'on est paradoxal. On est en contradiction avec nous-mêmes.
Allons voir si notre public est comme ça.
Alors, 790-9850, si vous avez une histoire à nous raconter, tu vois, Martin qui nous appelle. Bonjour, Martin.
Bonjour.
On vous écoute.
Je viens d'embarquer dans ma voiture pour faire une course, puis votre sujet m'interpelle parce que nous, on vit dans une petite maison, on est un couple avec un enfant.
Mm-hmm.
Et souvent, les gens me demandent, ben, pourquoi tu n'achètes pas une plus grande maison? Mais nous, ça ne nous intéresse pas parce que on aime mieux voyager, puis on aime ça, la proximité. Puis de toute façon, on est toujours dans le même étage, le même salon, on est dans la même chambre, on est toujours ensemble. Fait que nous, les grandes maisons, on trouve ça très impersonnel, puis on trouve ça grand pour rien.
Fait que vous avez fait le choix, Martin. D'abord, il y a un choix financier, on l'a bien compris, puis ça, je trouve ça très bien. Tu dis, garde, plutôt que mettre l'argent sur l'hypothèque, on va le mettre sur des voyages, très bien. Mais vous avez dit aussi, on aime ça être proches les uns des autres.
Oui, parce que nous, on fait de la cuisine ensemble, on écoute la télé ensemble. Puis quand on voyage, on aime le fait d'être dans la chambre d'hôtel tous ensemble, on s'entend très bien. Puis oui, on a un grand terrain, 4000 pieds carrés, mais l'autre chose aussi, c'est qu'une grande maison, je trouve que c'est beaucoup de temps à l'entretenir, aux innovations.
Oui. Ça, c'est un très bon.
Un toit de maison 20 par 24, il n'est pas beaucoup cher comparé à une maison 40 par 20, là.
Oui, bien, il y a des gens, d'ailleurs, qui... As-tu remarqué qu'il y a des gens qui prennent leur retraite? Première chose qu'ils font, ils vendent la maison. Souvent, ils voyagent ou ils s'achètent de motorisé puis ils partent. Puis ils vivent dans 40 pieds de long ou dans 30 pieds de long. Mais ils vivent collés un sur l'autre, puis ils sont bien, puis ils changent de place. Puis...
Merci, Martin, pour l'appel. C'est Jean, maintenant. Bonjour, Jean.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une bonne anecdote à vous conter. Moi, j'ai 60 ans, j'ai eu des maisons dans ma vie. À un moment donné, j'avais une grosse maison à Laval. Le toit cathédrale, le garage double, le pavé uni, la piscine. Puis là, à un moment donné, là, mes voisins m'avaient dit, là, tu peux mettre le lit dans ton pavé uni, ça va être plus beau. Fait que j'avais fait ça pendant 4 jours de temps. Mais là, quand mes amis venaient me visiter, j'avais peur que leur char, qu'ils salissent mon pavé uni avec leur huile. Puis là, je venais bien nerveux. Puis là, il y avait la piscine, il fallait que je mette des produits tout le temps. Puis là, à un moment donné, j'avais oublié la tank pour réchauffer la piscine. J'avais oublié ça pendant 4 jours. Ma tank a été vidée, ça coûtait 450$ remplir ma tank. J'ai mis la tank dehors, j'ai mis un net en plastique. De manière, ça faisait chaud. Fait que là, je voulais aller me baigner, je ne m'étais pas baigné pendant un mois. J'arrive sur le plongeon, puis là, je vois mon net en plastique. Oh non, trop de troubles, je suis allé prendre ma douche. J'étais malheureux, malheureux. Le spring du garage a pété, pas capable de le réparer. Je l'ai fait finir un gars, ça m'a coûté 600$. J'ai ouvert la porte à bras, là, la grosse porte de garage à bras. Là, c'était là, j'étais en appartement. La seule rénovation que je fais, j'ouvre la porte, puis je ferme la porte. Là, ça commence à m'énerver.
Hey, c'est un monologue.
Parce qu'à un moment donné, là, je vais me mettre une affaire magnétique, tu sais, parce que tourner mon poignet, là, ça commence à m'énerver. Je vais mettre une ouverture magnétique. La grosse paix, il y a une piscine dehors, c'est le gars qui s'en occupe, il y a un cœur de tennis. Quand il y a des feuilles, j'appelle le gars, il va remonter les feuilles. Je fais sweet, aucune rénovation, je me sens
Jean, c'est très bon. Ouais, Michel dit, c'est un monologue de spectacle que vous venez nous faire là.
Absolument, bravo. Bravo.
Michel.
Bravo. Ah, c'est excellent. Salut, mais oui, merci d'avoir appelé. Ah, tu vois, c'est précis.
Mais il a très bien exprimé parce que la maison.
C'était devenu un fardeau.
Un fardeau parce que tout se met à péter. Puis là, il faut que tu entretiennes ça. Puis là, tu dis, on va aller se baigner. Il y a des gens dans le cours qui tombent de la pelouse.
Mais non, mais tu t'empêches de recevoir du monde parce que tu as peur que la panne d'huile vienne couler sur ton pavé uni.
Ouais. Là, tu décides pas de baigner parce que.
Si tu on n'invitera pas personne, ma femme, parce que j'ai pas le goût de tacher mon pavé uni.
Puis là, la toile est mise à la piscine. Le temps qu'on l'enlève. On prend la douche. À la place. Ah, il est bon, le gars.
Il était très bon. Ouais. Puis tu vois qu'il est content. Là. Il s'est comme sorti d'une affaire là, dans laquelle il n'était pas heureux. Bon, OK. Hey, on se reparle demain?
Demain.
OK. Docteur Béliveau, mesdames et messieurs, après la pause, on va parler de la fausse viande Beyond Meat. Il paraît que dans 20 ans, une bonne part de notre viande ne sera plus animale. C'est pas des blagues. Dans un instant.